Vous écoutez
RMC. RMC, le dossier des GG.
Cédrine Carbajol, qui participe au Tour de France Femmes dans l'équipe EF Education Watley, a lancé un message qui n'est pas passé inaperçu en constatant la maigreur de certaines coureuses. Et comme elle est titulaire d'un BTS en diététique, elle a souhaité mettre en garde contre une alimentation surveillée à outrance. On va en parler. Est-ce que ça va trop loin, justement, cette nutrition, et notamment pour les coureurs cyclistes? Et pour en parler, on est avec Jérôme Coppel, membre de la Dream Team. Salut Jérôme!
Salut François, salut à tous.
Salut Jérôme.
Content de te retrouver. Bonjour. Après le
Ça
le
fait
Tour
plaisir.
De France. Et puis on va en parler aussi avec Léna Marjac qui suit le Tour de France Femmes pour RMC. On la retrouve dans les GG ce matin. Salut Léna.
Rebonjour tout le monde.
Rebonjour
Léna. On a fait bosser Léna. Tu vas nous rappeler les propos de Cédrine Carbajol qui ont fait beaucoup réagir sur le Tour de France Femmes cette semaine, hein, Léna.
Oui, ça fait réagir parce que Cédrine Carbajol constate que certaines coureuses maigrissent pour performer et c'est mettre clairement sa santé en danger, surtout si cela n'est pas encadré. Et donc Cédrine en fait un vrai combat, c'est de briser le tabou de la maigreur dans le peloton.
J'avais pas prévu d'en parler forcément. Il y a eu beaucoup de retours positifs, beaucoup de gens qui ont les mêmes idées, mais qui savent pas si les autres les partagent aussi. Et ça a un petit peu commencé à briser le tabou et j'espère que ça va continuer. On espère que ça va avoir un effet positif de prévention.
Et déjà, ces paroles ont été entendues par Dilixine Miermont, 25 ans. Elle est coureuse chez Ceratizit.
On essaye d'être au millimètre sur tout et malheureusement je suis pas sûre que ce soit un bon côté d'être au millimètre là-dessus, autant bien pour notre corps que aussi pour notre tête. Je pense que de se priver c'est pas non plus super bien, je pense qu'il faut garder des petits côtés plaisir. Je pense que c'est super important de faire attention à sa santé parce que il y a le moment T où on est dans le cyclisme et on veut performer, mais je pense qu'il y a aussi une vie après où il faut faire attention justement à notre santé et prendre soin de nous, ouais.
Parce que de façade, en fait, on voit quoi? Alors, des jeunes femmes dans le peloton, aux bras fins, aux jambes musclées, aux joues même parfois creusées. Mais ça, c'est juste de façade, parce que de l'intérieur, un vrai problème existe. Et ce problème, il a un nom, c'est le syndrome REDS, qui signifie en anglais déficit énergétique relatif dans le sport. Alors, c'est une pathologie que les médecins connaissent depuis longtemps, mais qui comporte des risques. Absence de règles, ostéoporose, problème de thyroïde, troubles psychiatriques ou encore dermatologiques. Ça, c'est une liste énumérée par Mathieu Muller, le médecin de l'équipe féminine de la Cofidis.
En fait, c'est une pathologie particulière parce que le REDS, au départ, on va performer parce qu'on aura un rapport poids-puissance plus intéressant. Sur le long cours, en fait, ça sera au détriment de sa santé. Mais en aigu, ça, on va plus performer. Mais si on reste trop maigre, trop longtemps, on va moins performer. Et il faut programmer. Et il faut cibler ses objectifs, un ou deux par an, et il faut programmer l'affûtage à ce moment-là. Et après, ces objectifs-là, reprendre un petit peu de poids. Ça n'a aucun impact sur la santé.
Et d'ailleurs, je vous prends un exemple sur ce Tour de France. Pauline Ferrand-Prévot, entre sa victoire à Paris-Roubaix et le début de ce tour, elle a perdu quelques kilos, 2-3 kilos à peu près, mais elle en est consciente. Elle ne peut pas rester au long terme avec ce poids-là parce qu'en raison des conséquences. Alors hier, Mathieu Muller, le médecin, me disait, est-ce qu'il faudrait instaurer une masse grasse minimale aux coureuses? Ça lui semble quand même très compliqué de mettre ça en place. Maintenant, le fait que Cédrine Carbajol ait pris publiquement la parole sur ce sujet, ça peut faire avancer les choses. Déjà, elle, en collaboration avec le syndicat des coureuses, elle espère maintenant un meilleur accompagnement et surtout une meilleure prise en charge de l'ensemble de ses athlètes.
Merci beaucoup Léna. Évidemment, on te retrouve un peu plus tard pour commenter la course là sur le plan sportif. Hein. On en a parlé tout à l'heure dans les GG, mais ce cri d'alerte, Jérôme Coppel, toi qui as fait du vélo, tu sais à quel point la nutrition est importante, notamment pour les cyclistes. Qu'est-ce que ça t'a inspiré quand tu as entendu ça?
Bah, ça me fait toujours un peu mal, j'allais dire, parce que nous, on était dans cette même configuration dans les années, avant 2010-2012, avant que l'équipe Sky arrive. Parce que, comme l'a dit Léna dans son reportage, c'est-à-dire nous, on était à la recherche du meilleur rapport poids-puissance. Et qui dit meilleur rapport poids-puissance dit maigrir. Mais on n'était pas encadré. C'est ce que dit Cédrine dans son interview, c'est qu'il faut que la perte de poids soit encadrée. Nous, on était un peu des apprentis sorciers. On voulait perdre du poids, on roulait beaucoup, on mangeait pas, on faisait ça sur des longues périodes, on faisait vraiment un peu n'importe quoi. au détriment de la santé. Moi, j'ai vu des comportements de certains coureurs qui faisaient vraiment assez peur, hein, des troubles du comportement alimentaire. Et ça, oui, il y a le côté performance, mais ça doit pas être au détriment de la santé. Mais là, je vous parle des années de 2005 à 2011-12 à peu près. Là, on n'avait pas de nutritionniste dans les équipes, on n'avait pas de cuisinier, on n'avait pas tout ça. Et c'est pour ça que moi, maintenant, j'ai l'impression que la morphologie des coureurs, on était encore sur le Tour de France il y a quelques jours de cela, la morphologie des coureurs a un petit peu changé, je trouve. On est moins dans des coureurs qui sont ultra maigres, comme on avait des Froome, des Bradley Wiggins, par exemple, à l'époque. Maintenant, grâce aux nutritionnistes, aux cuisiniers qui sont là, les coureurs savent exactement la quantité qu'ils doivent manger. Et comme l'a dit le médecin de l'équipe Cofidis, en fait, tant que c'est fait sur certaines périodes, pour certains gros objectifs, ça pose pas de problème. Mais quand c'est fait sur du long terme, ça peut vraiment avoir de graves conséquences, quoi.
Ouais. Après, c'est vrai que là, ce cri d'alerte permet de mettre quand même en lumière, on a parlé du syndrome Red-esque, voilà, des choses qui est malheureusement des conséquences graves, et notamment chez les femmes.
Bien sûr, parce que il y a des conséquences sur l'après-carrière chez les hommes, des troubles du comportement alimentaire, etc., des problèmes de peau, comme Léna l'a très bien expliqué. Mais chez les filles, il y a tout le côté cycle menstruel aussi qui est là, que nous, les hommes, on n'a pas. Donc là, tu rajoutes encore un problématique. Moi, avant de faire du vélo, j'étais en sport-études, en équipe de France de ski de fond. Il y avait déjà ces problèmes-là dans les années 2000, des filles qui n'avaient pas leurs règles, etc. Et bien sûr qu'à long terme, c'est ça peut avoir des conséquences assez graves, quoi.
Bon, en tout cas, voilà, cette mise en lumière, on voulait en parler dans les GG. Vos réactions, les GG, Marion, sur ce sujet-là, de la performance, de la nutrition, de ces filles qui font très attention à ce qu'elles mangent et de ce rapport poids-puissance qui, forcément, pose problème, hein, parce qu'on voit des filles qui maigrissent beaucoup pour être plus performantes.
Totalement. Alors c'est vrai que je pense qu'il y a un distinguo qui est important à faire et je rejoins ce qui a été dit précédemment. C'est vrai qu'une masse grasse trop faible chez les femmes entraîne ce qu'on appelle, alors en français, hein, la triade de la sportive, c'est-à-dire le déficit d'apport énergétique qui conduit à l'absence de règles et ensuite à l'ostéoporose. Donc on peut avoir justement une coureuse qui se fracture les cervicales et qui finalement pourrait se retrouver éventuellement paraplégique parce qu'il y a une déficience osseuse qui est trop importante due au manque de calories absorbées. Alors je pense que aujourd'hui les équipes investissent énormément d'argent dans ce qui est la nutrition. Aujourd'hui, la Visma, par exemple, alors là, je parle du côté masculin de l'équipe masculine, a 13 nutritionnistes. Les plats sont préparés dans un food truck égaré sur les parkings des hôtels dans lesquels résident les coureurs pour ne plus se servir au buffet de l'hôtel comme les gens lambda qui venaient séjourner dans l'hôtel, mais justement essayer de régler chaque calorie absorbée. Alors là où c'est plus encadré, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de data qui sont récoltées parce qu'il y a, il y a trois types de morphologies. Il y a les ectomorphes qui sont très grands et très minces et tout secs comme Froome par exemple. Il y a les endomorphes qui sont plus puissants, costauds, trapus mais très musculeux qui auront une demande et un besoin énergétique qui va être complètement différent. Et il y a les mésomorphes qui sont dans un profil plus intermédiaire. Et aujourd'hui, grâce à cet encadrement médical, on arrive justement à être plus sur quelque chose de précis en fonction des besoins énergétiques, de chaque coureur, de chaque coureuse, de leur donner un apport énergétique qui soit suffisant. Là, moi, où je me bats là-dessus, c'est finalement pour cette course vers la masse maigre de plus en plus faible, parce qu'effectivement, un kilo de graisse pure en moins, c'est 7 watts en plus, mais c'est pas tenable sur une année complète et c'est pas tenable sur une carrière complète. Donc il faut absolument que ça soit sur des parcours très ciblés dans une année, des courses extrêmement ciblées dans une année, laisser les jeunes filles ou les coureurs lâcher un petit peu prise de temps en temps, se faire plaisir sur 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, puis éventuellement reprendre une phase effectivement d'affûtage, avoir une autre compétition très importante, mais ce n'est pas tenable à l'année. Pour quelqu'un comme moi qui a souffert d'anorexie, je pourrais vous en parler pendant énormément de temps, à quel point ça a des ravages psychologiques qui sont majeurs et qui sont difficiles à pour même les familles qui entourent justement les sportifs, parce que vous vous renfermez sur vous-même totalement. Donc je pense qu'il y a vraiment une sonnette d'alarme justement à lancer, et c'est bien que les sportives elles-mêmes en parlent, mais chez les filles ça a vraiment des ravages qui sont très importants, et ça je pense que c'est vraiment fantastique que Cédrine prennent la parole pendant une vitrine aussi importante que le Tour de France féminin pour mettre en lumière les difficultés qu'elles peuvent ressentir au quotidien et cette pression autour de la nourriture.
Ouais, vos réactions, Ludo et Fred, sur ce qui vient d'être dit. Et effectivement, cette importance pour Cédrine Carbajal de mettre en avant ce discours-là, parce qu'il y a un discours aussi au sein du peloton de dire « Ah, regarde, elle a perdu du poids ». Où il a perdu du poids, il peut aller gagner le Tour de France. Donc, de valoriser en quelque sorte le fait de perdre beaucoup de poids.
Ouais, tu grimpes forcément mieux, mais.
On le met en avant et on dit, comme il est. On dit, il est plus affûté. Il est plus affûté.
On parlait de Pauline Ferrand-Prévot, je crois qu'elle a perdu 4 kilos entre Paris-Roubaix et aujourd'hui.
C'est visible d'ailleurs.
Je sais pas déjà qu'elle est toute fine. Enfin bon, c'est impressionnant. Moi, quand je vois Jonas Vingegaard, je me dis pas qu'il est forcément en bonne santé. Il est, je trouve, extrêmement maigre aussi. Le problème du vélo, c'est ce qui en fait aussi sa beauté, c'est que tout est poussé à l'extrême. C'est un sport, c'est un sport jusqu'au boutiste, en fait. C'est que, à tous les niveaux, que ce soit le matériel, que ce soit l'entraînement, que ce soit l'aérodynamisme, et donc la nutrition, on pousse la chose, jusqu'au bout. Par exemple, en football, tous les joueurs, d'un très haut niveau, ont un nutritionniste personnel. Et ça se passe très bien, pour le coup. Ils n'ont pas du tout ces mêmes soucis. En vélo, on va tellement loin dans l'expérimentation, c'est tellement dur.
On pousse tellement la chose au maximum que
ça devient fou et dangereux, en fait. Mm. Et donc, ils mettent effectivement leur santé en danger. Et elle a raison, Cédrine Carbajal, de le dire haut et fort.
Mm. Fred ?
Je suis très partagé. C'est très difficile pour moi de prendre une décision par rapport à ça, parce que, enfin, en tout cas, de répondre à la question qui est posée, parce que on sait que les athlètes, et surtout pour le vélo, et évidemment, qui est un sport extrêmement difficile, on sait que c'est des mécaniques de précision. On sait que chaque petit changement dans l'alimentation, dans la préparation, ça peut apporter énormément, et donc, on a quasiment tendance à dire, c'est important de le faire. Effectivement, on dit qu'on est affûté, on dit pas qu'on a maigri, on dit qu'on est affûté, on valorise ça, etc. Et donc,
c'est contre ça qu'il faut lutter.
Je suis d'accord. Sauf que le contrat, c'est ça aussi, c'est les performances. Donc, c'est pour ça que je suis un peu partagé. Je pense qu'il faut trouver le bon arbitrage entre performance extrême et protéger la santé des athlètes. Mais c'est très difficile à faire parce que une nouvelle fois, si c'est pas toi qui le fais, tu vas supposer que l'autre est capable de le faire. Ouais. Et donc, c'est une course à la maigreur, à la performance. Et on peut pas dire qu'elle soit bénéfique, c'est sûr.
Jérôme.
Ouais, ce qui est compliqué, c'est déjà le sport de haut niveau n'est pas bon pour la santé. Ça, tous ceux autour de la table, on aura certainement tous le même discours. Je veux dire, c'est pas bon de faire entre 30 et 35 000 kilomètres de vélo, peu importe si tu manges beaucoup ou pas beaucoup. Déjà, le sport de haut niveau est très exigeant et pas forcément bon pour la santé. Mais ensuite, il y a des histoires de résultats, et qui dit résultat dit contrat derrière. Quand t'es dans le milieu pro, t'es un peu dans ta bulle où tu vas dire celui d'à côté il m'a battu, mais putain, c'est vrai qu'il est quand même un peu plus sec, lui. Tu vas discuter avec lui, il dit j'ai fait du régime intermittent, j'ai fait le régime dissocié scandinave ou je sais pas quoi. Tu dis putain, ça a l'air de marcher, toi tu vas essayer ça, et puis finalement ça marche pas trop mal, donc tu réessayes, et puis au lieu de faire sur une petite période, tu vas faire sur plus long, parce que tu veux avoir des résultats, parce que tu vas avoir un contrat, parce que c'est le jeu aussi d'être sportif de haut niveau. Le jeu, c'est de pousser tous les curseur au maximum pour essayer d'être
mais Jérôme, justement, possible. Jérôme.
Et le problème, c'est que tu oublies ton facteur santé. Et c'est là où je trouve que, en plus, Cédrine, elle a la légitimité parce qu'elle a le diplôme. Mais c'est là où, des fois, en fait, il faut que certaines personnes du staff nous enlèvent nos œillères et nous disent, attends, le sport, c'est très bien, ça va être qu'une petite partie de ta vie. Mais après ta carrière, t'as encore 50 ou 60 ans à vivre. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine, sur cette courte période, de mettre ta santé en danger, alors que après, ça va peut-être
t'handicaper pour le reste de ta vie. Tu parles du staff qui vit de ça aussi et qui est indexé sur ça aussi, tu veux dire?
Bien. Oui, oui.
Ouais, mais là, c'est pas évident. Hein.
Et tu vois,
pas évident quand même.
Non, justement, c'est pas évident. Mais moi, je prenais mon exemple au début de ma carrière, où on n'avait pas de, pas de nutritionniste, pas de.
Là, on en est loin. Là,
rien.
C'est
encadré.
Mais bien sûr. Maintenant, c'est l'inverse. Mais ok, Jonas Vingegaard, vous avez dit, paraît très maigre. Pour l'avoir vu en vrai, il fait moins maigre que ce que la télé renvoie. Mais un tas de.
Moi, on dit l'inverse. On dit souvent l'inverse.
Non, franchement,
tu fais de la radio.
C'est pour ça que je fais de la radio.
Ouais, nous, on a des physiques de radio, Fred, de toute façon.
Oui.
Mais tu vois, un mec comme Tadej Pogacar, il fait pas ultra maigre, par exemple.
Non, mais c'est vrai.
Un Thibaut Pinot faisait pas très maigre, par exemple.
Van Der Poel non plus.
Ils étaient pas ultra maigres. Van Der Poel non plus. Wout van Aert non plus, finalement. Donc,
j'ai l'impression que faut toujours, bien sûr, être en alerte, que ça soit chez les hommes ou chez les femmes. Ouais. Mais grâce à l'encadrement du staff, ça va quand même dans le bon sens. Enfin, moi, je suis arrivé au départ d'un Tour de France, j'avais 4,5 de matière grasse, pour vous donner une idée. Oula. Et tu pars.
Fred, ça t'est arrivé aussi, ou?
Alors, 4,5, oui, ça m'est arrivé à la naissance.
Donc, c'est bien sûr que c'est pas bon pour la santé. Après, tu tombes malade. Enfin, il y a rien qui va. Sûr. Mais maintenant, comme c'est plus encadré, j'ai le bon espoir que le cyclisme masculin et féminin aille dans le bon sens.
Bon, on aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, c'est vrai que ce qu'a fait Cédric Kerbaoul, c'est aussi très courageux de sa part. Voilà, elle dit des choses qui ont résonné dans ce peloton et ça a permis justement de mettre en lumière ce débat. Merci beaucoup, Jérôme, d'être passé.
Merci à vous, Léna aussi.
Et on remercie Léna, évidemment. Bah, Léna, elle est là pour ça aussi.
On la remercie tout le temps parce qu'elle est tellement douée, Léna, on adore.